Quand j'étais enfant, j'avais de la difficulté parce que je confondais constamment deux notions. Et c'est curieux parce que ces deux notions sont bien différentes l'une de l'autre. J'ai fait la confusion plusieurs fois à l'école et on a bien ri de moi. Je confondais toujours religion et nationalité. Alors, quand on posait la question, par exemple, « C'est quoi ta religion ?», j'étais capable de répondre « Je suis belge ». Et quand on me disait « Mais alors, c'est quoi ta nationalité ?»« Je suis adventiste ». Alors, vous comprenez que les gens pouvaient rire de moi avec ça. Mais c'est quand même intéressant de voir que, dans le cœur de l'enfant, il y avait cette confusion entre ces deux notions qui disaient en réalité à quel point mon attachement à l'Église et à la foi faisait partie véritablement de mon identité. Lorsqu'on a partagé ce moment de culte précédemment, on a parlé de la notion d'appartenance. Et on a vu que l'appartenance est une notion très importante dans la Bible. Elle est reliée à cette idée de fils de. Dans l'Ancien Testament, en particulier aussi dans le Nouveau, l'identité de quelqu'un vient par rapport à ses ascendants. De qui suis-je le fils ? Fils de va dire qui je suis. Fils de va dire quels sont mes privilèges. Suivant de qui je suis le fils, je pourrais être au service du temple si je suis dans la tribu de Lévi. Suivant de qui je suis le fils, je pourrais être un sacrificateur si je suis de la descendance de Aaron. Fils de est extrêmement important parce que finalement, fils de, c'est être dans l'alliance que Dieu a proposée à son peuple. Vous vous souvenez dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, lorsque Dieu parle au peuple par l'intermédiaire de Moïse, il dit « Si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Il y a par conséquent cette alliance qui va unir le peuple à Dieu. Ce sont donc tous ses enfants. On pourrait prendre un autre passage, si vous voulez, ouvrez vos Bibles avec moi dans le livre du Lévitique, au chapitre 26. Lévitique, chapitre 26. Là encore se trouve un de ces passages qui montre cette appartenance réciproque de Dieu et de son peuple. Lévitique, chapitre 26, dès le verset 11, il est écrit « J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Voilà ce que Dieu avait en vue pour son peuple. « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. » On est souvent par nature attaché à un lieu, à un endroit. Et curieusement, on se rend compte en lisant les Écritures que Dieu invite ses enfants à quitter leur lieu. Il avait invité Abraham à partir de chez lui. Il va conduire le peuple hors de l'Égypte, dans le désert où il n'y a rien. Parce que Dieu a l'intention de nous inviter à s'attacher à lui en tant que personne, pas à un lieu, à un endroit ou à des choses. Ainsi, Dieu a un programme par lequel il veut nous attacher à lui. Et cet attachement à la personne de Dieu, c'est en fait une autre manière de parler du plan du salut. Parce que nous savons que nous ne sommes pas sauvés par le nombre de bonnes œuvres que nous accumulons. De même, nous ne sommes pas perdus par le nombre incroyable des mauvaises actions que nous avons accomplies. Nous sommes sauvés par le lien que nous avons créé avec le Sauveur, avec Jésus. C'est cette appartenance, en réalité, qui est la garantie de notre salut. Appartenir, c'est donc en réalité dire que nous sommes sauvés parce que si nous appartenons à Jésus-Christ, alors nous sommes véritablement sauvés par lui. L'apôtre Jean disait « Celui qui a le Fils a la vie ». Donc cette notion d'appartenance est essentielle parce qu'en fait, elle est une autre manière d'exprimer le fait que nous pouvons être sauvés en ayant créé un lien particulier avec Jésus, un attachement à une personne. Maintenant, lorsqu'il y a un attachement, une alliance qui est faite, il y a aussi un contrat d'alliance qui est fait, un texte qui est fait. Et dans ce texte, on va décliner la responsabilité réciproque des deux personnes, des deux parties dans cette alliance. On va expliquer quelle est la redevabilité des uns envers les autres, la responsabilité. Et dans notre texte, c'est fort simple. Tout à l'heure, on était au chapitre 19 de l'Exode, où Dieu disait, voilà, vous serez un peuple qui va m'appartenir parmi tous les peuples. Et dans le chapitre suivant, Exode 20, Dieu va donner les 10 paroles. Les 10 paroles qui vont être le texte de l'alliance, le contrat de l'alliance. Un contrat qui est présenté au peuple et pour lequel le peuple a dit, nous ferons tout ce que Dieu a demandé. Lorsque nous appartenons à quelqu'un, lorsqu'une alliance est faite avec Dieu, en fait, nous acceptons le mode de fonctionnement de celui avec qui nous faisons alliance. Nous acceptons la manière par laquelle Dieu va nous sauver. Nous acceptons son plan à lui pour nous sauver. Et par conséquent, nous acceptons aussi ses valeurs. Nous acceptons, en d'autres termes, sa loi comme étant notre loi. Vous vous souvenez, Ruth va rentrer au pays de sa belle-mère. Et pour bien montrer à sa belle-mère qu'elle ne veut pas rompre ce lien qui est créé entre elles, elle va dire une phrase, « Ton peuple, mon peuple, ton Dieu, mon Dieu, appartenance totale. » On va donc accepter dans cette alliance le fonctionnement que Dieu nous propose. Faire alliance avec Dieu, c'est finalement accepter de laisser de côté notre fonctionnement à nous, notre système de salut à nous, pour adopter le système de salut de Dieu et ses valeurs et sa loi. Quand on appartient à Dieu, quand on appartient à quelqu'un, à quelque chose, il y a aussi des signes d'appartenance. Par exemple, cette bague que j'ai au doigt s'appelle une alliance précisément parce qu'elle est le signe d'une alliance d'appartenance réciproque avec ma femme. Dans toute alliance, alliance d'appartenance, il y a des signes qui vont avec. Dans l'Ancien Testament, un des signes d'alliance qui est extrêmement significatif, c'est la circoncision. Un signe qui est lié d'ailleurs à cette notion dont on parlait tout à l'heure de « fils de ». C'est un signe qui est posé sur le sexe masculin parce qu'il est en train de dire que tous ceux qui vivent cette circoncision sont fils de, donc fils de l'Alliance, donc fils de Dieu. La circoncision, par conséquent, ce signe qui est placé juste après la naissance, est véritablement un signe d'appartenance. C'est fils de, fille de. Dans le Nouveau Testament, un nouveau signe va être donné d'appartenance. Et cependant, ce nouveau signe dans le Nouveau Testament est apparenté à la circoncision. C'est le baptême. Parce que le baptême, c'est le signe d'une nouvelle naissance. C'est aussi un signe à la naissance. Un signe par lequel on va mourir à la famille naturelle qui nous conduit à la mort. Et on va ressusciter dans la famille de Jésus-Christ, des enfants de Dieu. Et vous vous souvenez de ce texte dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3 et au verset 26, où il est dit, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. » On devient par conséquent fils de Dieu par le baptême, par la foi en Jésus-Christ. Donc, que ce soit dans l'Ancien Testament par rapport à la circoncision, signe d'appartenance au peuple de l'Alliance, ou que ce soit par le baptême, signe d'appartenance au peuple de Dieu par la foi en Jésus-Christ, on comprend qu'il est difficile d'avoir un lien d'appartenance, d'être dans une alliance, sans qu'il y ait des signes de cette alliance. Un autre signe est indicatif dans la parole de Dieu, signe d'alliance réciproque et d'appartenance réciproque entre Dieu et son peuple. Un signe que vous connaissez bien. Regardez par exemple dans le livre de l'Exode, au chapitre 31. Exode, chapitre 31. Exode, chapitre 31, Au verset 13, il est écrit ceci. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Et un peu plus loin, au verset 17, cette expression est reprise. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Le sabbat est un signe d'appartenance entre nous et Dieu, entre son peuple et Dieu. C'est en réalité le moment où le peuple reconnaît qu'il a accepté le moyen que Dieu lui a donné d'être sauvé, par le repos, par la foi, dans ce que Jésus a fait, pas dans ce que nous avons fait. Jour du repos. Donc le sabbat est extrêmement significatif. C'est un signe. Un signe, dit le texte, auquel on va reconnaître que c'est Dieu qui nous change, qui nous sanctifie. Ce ne sera pas nous. Ce n'est pas par nos efforts ou par nos œuvres qu'on va être changé ou qu'on va être sauvé. Le sabbat est le signe que nous avons accepté d'être sauvés par Dieu. Le repos. C'est un signe très significatif et qui a de l'importance, en particulier pour ceux qui ont accepté la grâce dans toute sa plénitude. Mais il y a des signes, en fait, qui sont des signes d'appartenance à l'ennemi, pas à Dieu cette fois-ci. Et vous avez peut-être lu dans l'Ancien Testament certains textes qui vous paraissaient étranges, bizarres, des prescriptions étonnantes. Regardez par exemple ce texte dans Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 14. Dès les premiers versets, il est dit ceci. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision et vous ne vous raserez pas entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Vous avez remarqué cette prescription étrange, pas d'incision et ne pas se raser entre les yeux pour un mort. Mais la raison nous est donnée, parce que tu es un peuple saint, parce que vous êtes les enfants de, vous êtes les fils de l'Éternel, et vous êtes un peuple qui lui appartient. Autrement dit, ce texte nous dit, et dit au peuple, vous ne pouvez pas d'un côté appartenir à Dieu et porter les signes de l'autre, de l'ennemi. Et dans ce texte, il est clairement précisé, ces signes sont en rapport avec le monde des esprits, avec le spiritisme, avec des rites qui sont faits pour les morts. Et Dieu dit, vous ne pouvez pas prétendre m'appartenir et porter les signes du monde des esprits. Ça ne marche pas. Portez donc les signes de celui à qui vous appartenez. Un autre exemple, si vous voulez, qu'on peut regarder dans le livre du Lévitique, au chapitre 19. Lévitique chapitre 19 nous donne encore un de ces exemples-là. Une prescription qui peut paraître étonnante et pour laquelle une explication est donnée. Lévitique chapitre 19, dès le verset 26, il est écrit ceci. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents ni les nuages pour en tirer des pronostics. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure. Et tu ne raseras pas les coins de ta barbe. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Là encore, des prescriptions particulières sont données. Et Dieu dit, je suis l'Éternel. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas le faire. Et dans ce texte, on comprend extrêmement bien que ces pratiques-là, qui n'ont pas d'écho dans notre société d'aujourd'hui, encore que... Je pense au coin de la barbe, et je ne voudrais pas choquer aucun des barbus de l'Assemblée. Mais ces prescriptions sont liées à ce temps-là, avec des pratiques de spirites. D'ailleurs, la dernière prescription qui est donnée ici par rapport aux figures imprimées sur soi et aux incisions qui sont faites, vous le remarquez, sont encore aujourd'hui liées au monde des esprits. Alors il y a des signes. Il y a des signes d'appartenance à Dieu et il y a des signes d'appartenance à l'ennemi. Certains signes sont encore associés à l'ennemi aujourd'hui. Certains signes sont encore associés à Dieu. Je pense à ce jeune homme, un jeune adulte qui était moniteur d'école du sabbat pour les enfants dans son église il y a des années. Et un sabbat, il est venu à l'église avec une coiffure, avec une grosse crête au milieu de la tête qui tenait avec du gel. Alors après le culte, on a parlé ensemble et je lui dis, mais est-ce que tu comprends que les jeunes à qui tu enseignes la Bible te regardent comme un exemple? Oui. Mais je lui dis, mais avec l'allure que tu as aujourd'hui, avec qui tu as voulu t'associer? Et il m'explique que ses amis font ça. Alors je lui ai demandé, mais tes amis, est-ce que tu arriverais à les amener à l'église aujourd'hui? Il dit non. Est-ce que tes amis, ils vivent et ils ont des valeurs qui correspondent à ce que tu enseignes toi aux enfants le sabbat quand tu es là? Pas vraiment. Alors pourquoi est-ce que tu t'associes à eux par le look que tu prends? La suite de l'histoire de ce jeune homme a montré qu'il a suivi ceux dont il reproduisait les signes. Il s'est écarté de l'église, il a laissé l'église et il a été avec ceux qui ressemblaient à ce qu'il voulait ressembler. Les années ont passé et puis un jour il a vu avec qui il s'était associé. Il est revenu et il aurait voulu payer très cher, très cher. Il était prêt à mettre une somme colossale pour enlever tous les tatouages qu'il avait mis sur son corps et qu'il comprenait maintenant comme inconciliable avec la foi en Jésus-Christ. Nous portons des signes, consciemment ou non d'ailleurs, qui parlent énormément sur notre appartenance. Et les signes que nous portons, les signes parfois que nous portons inconsciemment, parlent très fort sur l'appartenance, en fait profonde, celle du cœur, pas celle des paroles, celle du cœur en profondeur. Certains signes, en fait, ne sont pas mauvais en soi, mais ils posent un problème à cause de l'association. Vous vous souvenez qu'à la fin des années 1960, dans le monde occidental, un vent de révolution a soufflé. Révolution marxiste, révolution maoïste, révolution anarchiste. Ces vents soufflaient dans le monde occidental et dans une école chrétienne, on avait interdit la barbe. Parce que le signe à ce moment-là de cet esprit révolutionnaire, c'était de s'habiller à la Fidel Castro, avec la barbe, vous voyez le genre. Donc dans l'école chrétienne, on s'était dit, on ne veut pas s'associer à ça et on ne veut pas que les jeunes prennent cette allure et cette mentalité révolutionnaire. La barbe avait été interdite. Maintenant, 10 ans plus tard, j'étais dans cette école. À un moment, une discussion est sortie et les jeunes ont dit, mais pourquoi on ne peut pas porter la barbe ici? Qu'est-ce qui se passe? Et une discussion s'est établie avec la direction. Et ils ont reconnu que 10 ans plus tard, le port de la barbe n'avait plus du tout le même sens que 10 ans auparavant. Le règlement a été enlevé. C'est que porter la barbe ou pas barbe, pas de problème. Mais à quoi cela était-il associé dans ce temps-là? C'est ça qui posait un problème. Le problème n'est pas nécessairement le signe, mais ce que signifie ce signe. À quoi ce signe est associé? Ou à qui il est associé? À quelle mentalité? À quelle philosophie? À quelle valeur il est associé? Le monde occidental prétend souvent ne pas donner aux signes beaucoup d'importance par rapport au monde oriental. Mais quand on y réfléchit, le monde occidental porte beaucoup d'importance aux signes, ce sont juste des signes différents. Et je repense à cette église, il y a de nombreuses années en arrière, où il y avait un club d'explo, comme ici, qui se réunissait à intervalles réguliers, ils avaient leurs activités, et un jour, une discussion a été entamée entre les jeunes et les responsables de leur groupe, parce que les jeunes disaient, on ne veut plus mettre l'uniforme des Explos. Ça fait trop militaire, ça fait trop contraignant. Et ils avaient toutes sortes d'arguments pour dire, voilà, ça limite la personnalité de chacun. C'est, non, c'est très mauvais, l'uniforme, on ne veut plus ça. Et ils avaient des arguments extraordinaires pour défendre leur position. Les responsables ont écouté, les chefs ont écouté. Et puis finalement, ils ont dit, bon, ok. Alors, à la prochaine réunion, pas d'uniforme. Les jeunes avaient l'impression d'avoir gagné une victoire fantastique sur l'autorité, etc. La fois suivante, ils arrivent tous, pas d'uniforme. Très contents. Le chef lui avait son uniforme, mais pas les jeunes. Alors, ils ont eu leurs activités, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Et avant de terminer, le chef les a rassemblés et leur a dit ceci. Il dit, mais je ne comprends pas. La dernière fois, on a discuté et on a dit, la prochaine fois, pas d'uniforme. Mais pourquoi est-ce que vous êtes tous venus en uniforme aujourd'hui? Alors, il a eu la réponse des adolescents. Hein? En fait, ils étaient tous habillés en jeans délavés, en t-shirt défraîchi et en chaussures de basket. Tous. Autrement dit, le chef leur a dit, voilà l'uniforme que vous avez mis aujourd'hui. Et ils ont commencé à discuter. En fait, leur chef leur a parlé et leur a dit, tous les arguments que vous avez employés la dernière fois pour ne pas mettre l'uniforme Explo, je pourrais maintenant vous les renvoyer pour l'uniforme que vous avez mis aujourd'hui. Ce sont les mêmes. Et leur a fait comprendre que leur problème n'était pas avec l'uniforme en soi. C'est juste que cet uniforme-là ne leur convenait pas. Ils préféraient un uniforme qui ne les distingue pas de ce qui se passe dehors. Et leur chef leur a montré l'uniforme que vous avez rejeté, que vous ne vouliez pas mettre, qui était résolument mauvais et militaire et tout. C'était un uniforme qui vous associait à l'Église, à certaines valeurs. Et vous avez eu peur que des jeunes du dehors vous rencontrent en uniforme et disent « Oh, t'es aussi dans cette Église-là, toi ?» C'est de ça qu'ils avaient peur. En fait, ils préféraient un uniforme qui les rende conformes à ce qui se passait dehors plutôt qu'à ce qui se passait dedans. Ça a été l'occasion d'une discussion, en fait en profondeur, pour réfléchir sur l'appartenance et les valeurs. Est-ce qu'il y a un mal à porter un jean? Non. Mais dans tel contexte, ça veut dire quoi? En fait, il y a des signes d'appartenance qui ne sont pas bien ou mal en soi. Mais qu'en tant que chrétien, je ne peux pas prendre parce qu'il m'associe avec quelqu'un, avec quelque chose, avec quoi je ne veux pas être associé. Il y a peut-être là un groupe de gens dont la philosophie, la mentalité, les valeurs, les commandements ne sont pas ceux que j'ai acceptés étant un croyant en Jésus-Christ. Alors comment puis-je porter les signes des gens qui sont contre Dieu, si d'un autre côté, je prétends appartenir à Dieu entièrement? C'est difficile. Jésus avait un peu le même problème dans ce texte que nous connaissons bien, qui est le texte de Luc 4, où il nous a raconté la tentation de Jésus. Vous vous souvenez du contexte, Jésus est au désert pendant longtemps, il va jeûner pendant plus d'un mois, et dans Luc 4, au verset 3, il nous est dit, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Écoutez, si vous jeûnez 40 jours, est-ce qu'il y a un problème à vouloir manger des pains après? Sûrement pas. Le problème n'est pas dans les pains. En fait, ce que le diable lui demande de faire n'a rien de méchant, c'est rien de mal en soi. Alors, on pourrait poser la question. Et vous avez peut-être entendu poser cette question par des jeunes ou des moins jeunes. Il y a quoi de mal à ça? Mauvaise question. La question n'est pas « qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ?» La question est « à quoi est-ce que ça m'associe ? Avec qui est-ce que je crée un lien par ce moyen-là » Et dans le cadre de Jésus, c'est exactement ce qui se passait. Il n'y a pas de problème à manger du pain quand on a jeûné pendant 40 jours, mais il y a un problème à obéir au diable, même s'il nous demande à faire quelque chose de bien. ou même s'il nous demande de faire quelque chose qui n'est pas mal, parce que ça m'associe à lui. Et en fait, la Bible nous dit clairement que notre maître, c'est celui à qui nous obéissons. Alors à partir du moment où j'obéis au diable, même s'il me demande de faire quelque chose de bien, je porte le signe d'appartenance et d'association avec lui, pas avec l'Éternel. Et là encore, Jésus était constamment confronté à cela dans son ministère. Aujourd'hui, je me rends compte que les signes d'appartenance sont nombreux dans ma vie chrétienne. Une foule de choses sont en réalité des signes qui m'associent avec quelqu'un ou avec quelque chose. Et je me pose la question en tant que croyant. Les signes que je porte, les signes que je vis, avec quoi, avec qui est-ce qu'ils m'associent? Est-ce qu'ils m'associent avec mon Sauveur? Est-ce qu'ils m'associent avec l'Église? Est-ce qu'ils m'associent avec les valeurs de la parole de Dieu? Ou est-ce que ces signes m'associent avec les autres qui ne veulent pas de Dieu? Ou qui ont même peut-être élaboré une philosophie contre Dieu, avec ceux qui ne croient pas que Dieu est le Créateur, ni le Sauveur. Les signes finalement que je porte en disent long sur l'appartenance de mon cœur. Ils en disent long parce que les signes font partie de ce qu'on pourrait appeler le langage non-verbal. Et ça s'étend à de nombreux aspects de notre vie chrétienne. Ces signes, on les voit par exemple dans nos vêtements, dans la manière dont nous sommes habillés, et dans la façon dont nous nous sommes habillés dans certains contextes et à certains moments. Le sabbat matin, ou lorsqu'on va travailler, est-ce qu'on va être habillé de la même manière? Ces signes, ils se portent aussi dans les bijoux que certaines personnes vont porter. Ces signes, on va les voir dans la décence de nos vêtements. Ces signes, on va les voir aussi dans les achats que nous faisons, dans le nombre des achats que nous faisons, dans ce que nous achetons, dans les gadgets dont nous pensons avoir besoin. En fait, ce sont tous des signes qui parlent énormément sur notre attachement et sur les valeurs auxquelles nous sommes attachés. Alors je me demande, les signes que je suis, les signes que je porte, de quoi parlent-ils concernant mon attachement? Trahissent-ils un attachement au monde plus grand que je ne l'admets par mes paroles? Est-ce que les signes que je porte, que je vis, trahissent un attachement à des philosophies que je suis capable de contrer quand je suis à l'église? Est-ce que les signes que je porte parlent plus fort que la foi dont je témoigne? Dieu avait donné dans l'Ancien Testament des prescriptions pour que son peuple ne porte pas les signes de l'ennemi en prétendant appartenir à Dieu. Et je crois que dans notre époque, le Seigneur peut nous demander la même chose. D'autant plus que nous vivons les temps de la fin, où il est nécessaire que la trompette donne un son clair, où il est nécessaire que le témoignage soit non ambigu, de manière à ce que ceux qui cherchent la vérité puissent savoir où elle se trouve et qu'ils l'entendent et que, voyant le message ou entendant le message que je donne, ils ne se disent pas « De toute façon, ils disent la même chose que tous les autres. Pourquoi donc se tourner vers eux plutôt que vers d'autres puisque c'est tout pareil ?» C'est pas pareil. C'est extrêmement différent. Et je crois que l'Église, du reste, dans les derniers temps, a un message clair à donner. Avec amour, avec douceur, avec clarté. Le prophète Ésaïe avait entendu de la part de Dieu cet appel-là. Et je crois que l'Église du reste, à la fin des temps, est aussi une Église avec une mission prophétique. Et ce qui est vécu par les prophètes a aussi un impact pour l'Église du reste à cause de cette mission prophétique qui nous est accordée de la part du Seigneur à la fin des temps. Dans Ésaïe au chapitre 8, Ésaïe exprime comment il a répondu à cet appel de Dieu. Et j'aimerais ce matin vous laisser cet appel-là aussi. Ésaïe chapitre 8, au verset 17, il est écrit ceci. « J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob, Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Non seulement nous portons des signes, et le Seigneur voudrait nous inviter à nous souvenir que plus que porteurs de signes, nous sommes nous-mêmes des signes de la part de l'Éternel. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'être des signes à sa gloire. Amen.